de lumière. Je voulais le pencher de sorte que la lumière rebondisse davantage sur cette surface. Et puis aussi, ça me... En fait, j'avais en tête aussi ces panneaux solaires. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les centrales solaires. Ce sont plein de panneaux qui viennent comme ça renvoyer la lumière du soleil. Et donc, c'est des dispositifs qui sont mobiles et qui peuvent se pencher. Donc voilà, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais bon, chacun peut le voir comme il l'entend.
J'avais l'impression que les oiseaux, c'était comme des jouets.
Alors, c'est tout à fait exact, parce que l'origine de cette pièce, c'est un jouet. C'est un objet qui est beaucoup plus petit, qui trône au-dessus du lit de mes parents, et qui est là depuis deux générations, et donc principalement les enfants qui sont sensibles à cet objet. Et tous les enfants, génération après génération, ils veulent tirer sur le fil. Et un jour, j'ai trouvé qu'il y avait... C'est un dispositif tellement simple, qu'il y avait cette petite poésie, et puis j'adorais ce mouvement très lent. Et donc j'ai simplement... Bon, j'ai fait un autre objet un peu plus grand, mais c'est simplement, voilà, je suis allé glaner cette chose, et hop, j'ai... Voilà. Mais c'est très juste, à l'origine, c'est un jouet.
Aimes-tu utiliser la lumière ? À quoi elle te sert ?
Alors, la lumière est à mes yeux très très importante dans la plupart de mes dispositifs. J'ai même ce défaut. J'ai remarqué que souvent, lorsque je montrais mon travail dans une exposition collective avec d'autres artistes, j'avais tendance à tirer un peu trop la lumière sur mon travail. Je voulais toujours mettre de la lumière, plus de lumière, encore plus de lumière, parce que les choses apparaissent dans la lumière. Alors tout dépend de la nature du travail, tout dépend de ce que l'on montre, mais c'est quand même... on vit dans un monde baigné de lumière, et là... Comme le travail de l'artiste est de montrer des choses, la lumière est forcément... alors, il y a des artistes qui l'utilisent plus que d'autres, mais je pense beaucoup à la lumière, très souvent à la lumière. Bien que dans cette exposition, vous avez peut-être remarqué qu'on est quand même dans une lumière qui est quand même assez contrôlée, assez... On a plutôt décidé de descendre les tissus là qui permettent d'atténuer un peu la lumière. Je voulais pas qu'il y ait quelque chose d'agressif, mais par exemple, pour en revenir à l'accumulation d'affiches, la lumière sur cette pièce par exemple, c'est très très important. S'il y a une lumière un peu diffuse, un peu, ça peut devenir quelque chose de tout à fait éteint, et ce serait dommage.
Qu'est-ce qui a été le plus difficile?
Alors, il y a plusieurs choses. Alors, la pièce des ressorts, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais j'ai eu un petit peu de mal de la projeter dans cet espace. Parce qu'avant de poser les pièces, de faire l'exposition, on passe 3 mois avant, 6 mois avant... On nous présente l'espace, voilà, tu vas faire quelque chose ici, enfin, si tu l'acceptes. Et tu rentres chez toi et tu commences à travailler là-dessus. Et j'avais cette idée de faire cette pièce avec les ressorts. Et j'avais énormément de mal de projeter cette pièce. Donc c'est quelque chose, ça m'embêtait beaucoup parce que c'était un élément important dans cette exposition. Si ça... Voilà, les choses s'articulaient un petit peu autour de cette pièce. Ensuite, les ressorts, ça a été un petit peu difficile, mais c'était laborieux, c'était beaucoup de travail. J'ai eu accès à ces éléments, les radiateurs, un peu sur le tard. Et donc, voilà, ça a été un peu difficile, mais sinon, je n'ai pas rencontré de... Enfin, il n'y a pas eu de difficulté très, très importante.
Quand tu rates une œuvre, tu abandonnes ou tu recommences?
J'aime bien ta question. Eh bien, en En vérité, cela dépend. Il y a des choses que tu abandonnes assez rapidement, et d'autres que tu recommences. J'ai envie de te répondre que ce dont tu parles, c'est le travail de l'atelier, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se déroule, qui se dénoue dans cet espace, l'espace de l'atelier. C'est un espace dans lequel tu éprouves les choses, tu fais quelque chose, tu vis avec, tu laisses le temps un peu défaire, faire les choses. Mais c'est très important. Moi, j'essaie par exemple que rien ne sorte de mon atelier, sauf ce qui, à mes yeux, j'en suis sûr, c'est bon, ça marche, on y va. Mais ça arrive assez souvent. Il y a des choses. Heureusement que ça arrive pas plus souvent que ça n'arrive. Enfin que. Bon, mais voilà, ça arrive et parfois, la pièce finit à la poubelle et puis c'est tout. C'est comme ça. Et puis tu ne recommences pas parce que tu vois que c'était une mauvaise idée.
Merci beaucoup. Au revoir.
Tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand. Cette émission a été réalisée par Xavier Lecomte, que je salue et remercie très chaleureusement. Notre invité du jour s'appelle François Cereza. Il vient de publier aux éditions du Cherche Midi « Dictionnaire égoïste du panache français », un livre qui vient de recevoir le prix Denis Tillinac 2023. François Cereza, qui a aussi été rédacteur en chef au Nouvel Observateur et qui a créé le service littéraire journal des écrivains fait par des écrivains, est un inclassable, un réfractaire à la mode, un rebelle, un franc-tireur qui ne se reconnaît pas toujours dans l'esprit des missionnaires de notre époque. Dans ce dictionnaire qui ne ressemble à aucun autre, vous trouverez ainsi 52 portraits d'hommes et de femmes d'exception, parmi lesquels Louise Michel, Olympe de Gouges, Georges Sand, Guy Môquet, Jean Moulin, Marie Curie ou le trop méconnu et libertaire Georges Darien, qui reçut à titre posthume le prix des bouquinistes. Mais je vous laisse découvrir par vous-même cet exercice d'admiration qui est aussi et surtout un très bel éloge de la liberté d'être. Bonne écoute à tous. François Cereza, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de publier le dictionnaire égoïste du panache français, ça vient de paraître aux éditions Le Cherche Midi. Alors, ma première question, en fait, je me demande si le panache, c'est pas ce qui reste quand on a tout oublié, et je me pose la question de le pourquoi du comment de ce livre. Finalement, on n'a pas ou peu écrit sur le panache.
Ben, d'abord, c'est une, j'allais dire une vertu ou un vice complètement français, le panache. Hein. Ouais. C'est un truc, il y a d'ailleurs, je crois que le mot n'existe pas dans d'autres langues, notamment anglais et allemand. remarquez cela, nous ont emmerdés pendant des siècles. On a été en guerre contre eux sans arrêt. Donc on a fait preuve de panache contre eux, parfois de façon négative, parce que ça s'est mal passé pour la France, comme vous savez. Je pense toujours à la guerre de 100 ans. D'ailleurs, évidemment, il y a un petit chapitre consacré à cela, ou en tout cas l'introduction. Mais la guerre de 100 ans, comme son nom l'indique, a duré 100 ans. Et à chaque fois, on a pris une tripotée par les Anglais. Les grandes batailles, comme vous savez, c'est Crécy, Azincourt, Poitiers. À chaque fois, des dérouillés mémorables. Mais pourquoi ? Et c'est pour ça que j'en viens quand même au panache. C'est parce que les chevaliers français voulaient tellement en découdre avec les Anglais qu'ils se lançaient à l'attaque avant même qu'on leur donne l'ordre, et ils passaient même sur leur piétail, enfin sur leur infanterie. Et donc les Anglais les attendaient tranquillement avec des arcs et des flèches, et comme vous savez, les chevaliers étaient décimés. Bon, il faut quand même préciser une chose, c'est qu'il y a eu une dernière bataille, je crois que c'est Castillon, qui est une dernière bataille de la guerre de 100 ans, où là, et c'est quand même amusant de la part des Français, on a gagné, donc c'est une bataille gagnée par la France, et les archers anglais, on les a fait prisonniers, et on leur a coupé l'index, pour leur apprendre à vivre, et pour plus pouvoir tirer à l'arc. Donc voilà. Vous voyez, donc ce panache, c'est à la fois un mélange de brio, de coups d'éclat, mais aussi parfois de niaiserie, d'imbécilité et de prétention. Et d'ailleurs, il y a un mot qui peut ressembler au panache, qui est le panachard. On songe au général Boulanger, qui était un véritable panachard, mais qui est mort d'une belle façon, puisque il s'est suicidé sur la tombe de sa maîtresse. tellement il l'aimait, et quand elle a disparu, il n'a pas pu le supporter. Et donc voilà, c'était quand même un homme qui avait ce panache.
Ouais, qui avait ce panache. Et j'ai l'impression aussi que les écrivains que vous admirez, François Cérezat, ils ont eu du panache. Et c'est des écrivains, je ne dirais pas que c'est des panachards, peut-être que si. Mais est-ce que c'est aussi un exercice d'admiration ?
Ah ben, c'est avant tout un exercice d'admiration. C'est-à-dire que vous me parlez des écrivains. Parmi ces écrivains, vous avez vu qu'il y a Joseph Kessel, qu'il y a Romain Gary, et un peu plus loin, Alexandre Dumas, Victor Hugo, et je pense aussi, évidemment, à des gens qui sont un petit peu moins connus, comme celui qui a fait Le Voleur, et Darien, celui qui, voilà, Georges Darien, et celui qui a fait Mon Oncle Benjamin, Claude Tillier, qui sont un peu des, j'allais dire, des esprits libres, à tendance peut-être un petit peu anarchiste, surtout, évidemment, Georges Darien. Puisqu'il avait été au bataillon d'Afrique, où il avait été envoyé pour avoir simplement insulté ou injurié un supérieur. Et donc, évidemment, que ce sont des gens qui, en plus de ce caractère qu'ils ont, qui est quand même un caractère bien trempé, sont des écrivains avec un style, voilà. Ce qui nous fait quand même une moyenne avec d'autres rigolos qui pensent être des écrivains, mais qui n'ont ni tempérament, ni style. Or, le panache, je trouve que c'est à la fois le style et le tempérament.
Absolument. Alors, vous écrivez, François Cérezat, le panache est une maladie française. Pour en avoir, il faut aimer la pratique et détester la théorie. Si l'on prenait cela à la légère, on dirait, à l'instar d'Alexandre Vialat, que comme la femme, il remonte à la plus haute antiquité. Et vous parlez aussi du panache des perdants magnifiques. Il faut savoir jouer et perdre dans la vie.
Oui, parce que il y a une grande part de mélancolie et de nostalgie. Parmi les personnages, il y en a 52 quand même dans ce livre. Donc pour les gens qui fatiguent un peu à la lecture lorsqu'ils ne font que regarder la télévision, regarder leur smartphone, ils pourront lire mon livre pendant un an. Puisqu'il y a 52 personnages, ça fait un par semaine, ça va, c'est pas trop lourd. Donc voilà, et oui, mais c'est la vaillance et encore une fois l'action d'éclat. Et je voulais que ce livre soit un livre de bonne humeur. Les mots, évidemment, ils ne manquent jamais quand on possède l'idée. Hein. C'est une phrase de Flaubert, ça.
Alors voilà ce que vous écrivez encore sur le panache. Chez les petites gens, en littérature, au cinéma, en sport, en musique, en gastronomie et même en politique, où le panache, par les temps qui courent, a tendance à se transformer en panaché. Ça, j'ai bien aimé, c'est votre sens de l'humour habituel. Et est-ce que c'est un baroudeur, le panache, vous dites ? Le panache est désintéressé, car son intérêt ne résulte que de lui-même. Quelque chose de libre, de grand, d'étincelant, c'est le goût du beau geste.
Bien sûr, mais c'est ça, c'est le paradoxe, si vous voulez. finalement, le panache, c'est celui qui ose dire non. Donc, évidemment que dans mes personnages, j'aurais pu mettre Albert Camus, d'ailleurs, d'une certaine façon, parce que c'est vrai qu'il avait un panache, même si c'est pas l'écrivain que je préfère. Mais bon, évidemment que j'ai mis le général de Gaulle, parce que de Gaulle, il a osé dire non. Il était tout seul, quand même. C'est-à-dire, c'est courageux. C'est à la fois de la bravoure, du courage. Et dans le panache, c'est en cela que les Français, bah, ça me plaît beaucoup, évidemment, aussi bien pour des hommes politiques, pour des cuisiniers. Je pense à Bernard Loiseau, parce que Bernard Loiseau, j'ai très bien connu, qui était un ami, qui était un formidable chef et un formidable caractère et tempérament. Je pense à d'autres que je n'ai pas connus, comme Chanel, parce qu'on m'a reproché d'avoir mis Chanel dans le panache, parce qu'on dit, oui, elle était antisémite et tout. Bon, enfin, c'était quand même une amie de Churchill. Churchill n'était pas, me semble-t-il, antisémite. Donc, et puis, ça, Chanel, c'est connu dans le monde entier, quoi. C'est ça fait partie, justement, de ce panache français, hein, on n'y peut rien.
Alors bon, vous avez mis surtout aussi des personnages de romans. Moi, je pense à Athos, hein, ceux que vous adorez. Cet homme va jusqu'au bout de sa folie, rien ne l'arrête. Il est le capitaine de Boieldieu dans La Grande Illusion, le capitaine Esclarier dans Les Centurions, Alain Leroy dans Le Feu Follet, un mercenaire, un anarcho-syndicaliste, un situationniste, un prêtre ouvrier, opposé à la droite, à la gauche, à la vulgarité ambiante, un inclassable, au fond un libertaire, un iconoclaste qui se bat contre lui-même et contre tout le monde.
Eh oui, ça, le conte de la fer, je dois avouer que c'est le personnage préféré, même quand j'ai lu la première fois Les Trois Mousquetaires. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'on ne puisse pas aimer les Trois Mousquetaires. J'ai d'ailleurs fait évidemment en plus un portrait d'Alexandre Dumas, qui était un personnage formidable. Mais je veux dire, Athos, c'est vraiment à la fois le courage, la folie, la mélancolie, et évidemment un côté libertaire. Lui, il aurait pu dire ce que disait Julien Gracq, c'est-à-dire que la pensée, c'est pas quelque chose qu'il travaille. Il dit, Julien Gracq disait, la pensée tue tout ce qu'elle touche. Athos, il n'y a pas de pensée, c'est avant tout les sentiments, c'est avant tout le geste, la gestuelle, c'est avant tout l'action d'éclat, comme je vous disais tout à l'heure, le courage, la fidélité, l'honneur, des choses qui, évidemment, maintenant, à notre époque, semblent un peu, encore une fois, désuètes ou inexistantes, pratiquement, puisqu'on a l'impression que tout ça est considéré comme de la rigolade ou comme quelque chose de réactionnaire, j'allais dire.
Voilà ce que vous écrivez sur Athos. Athos, c'est le magnifique, le somptueux, le fulgurant, le mélancolique, l'éblouissant, le flamboyant. Avec lui, la déraison décide de ce qui est juste, mais la colère veut la finesse et la fierté de l'esprit. Athos pour tous, tous pour Athos. Bon, c'est aussi le sens de la camaraderie, c'est un réfractaire, c'est un incorruptible.
Oui, vous savez, c'est quelqu'un qui ose. Voilà. Alors, non mais vous savez, il y avait une phrase dans un film de Michel Audiard, les cons ils osent tous, c'est même comme ça qu'on les reconnaît. Ben, je suis pas du tout d'accord avec Michel Audiard, mais alors franchement pas du tout. Moi je suis plutôt d'accord avec Sénèque qui lui disait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et vous voyez, c'est une phrase quand même qui ressemble à date de la plus haute antiquité, hein, parce que Sénèque était le conseiller de Néron. Donc je veux dire, avoir une phrase comme ça, ça veut dire qu'on peut quand même malgré tout avoir confiance en l'homme. C'est parce que je pense que les gens qui parlent du passé souvent disent c'est quelque chose de très lointain, ça. Mais vous vous rendez compte, les phrases qui étaient dites déjà par des gens comme ça, je pense aussi aux philosophes grec, bon, et bon, la France s'en sort toujours là avec un peu moins de réflexion, un peu moins de pensée, mais beaucoup de sentiments, beaucoup de cœur, beaucoup d'âme.
Alors, il y a aussi le sport. Les Français aiment les perdants, le bon gars au physique passe-partout, et à l'accent du terroir, matois et sympa, qui se plante lors des grands rendez-vous. On pense à Poulidor, mais il n'est pas dans le livre.
Non, ben non, j'ai bien Anquetil. Voilà. Et voilà. J'ai mis Anquetil parce que Anquetil, c'est justement une certaine forme du panache, un petit peu hautain. Ouais. Voilà, Anquetil, c'est vrai qu'il avait un côté seigneur, le méprisant. J'accomplis mon geste à la façon finalement d'un chevalier de la Table Ronde, et les autres, je m'en fous complètement. Bon, Poulidor, lui, c'est bah, contraire, on va boire un coup ensemble et tout ça. Vous voyez, c'est donc c'est c'est pour ça qu'il y a plusieurs définitions pour ce panache. Moi, je pense que Anquetil en avait et que Poulidor, tout aussi sympathique était-il. N'avait pas véritablement de panache, même s'il luttait. L'autre, il était au-dessus. D'ailleurs, on a toujours parlé de Poulidor comme l'éternel second.
Oui, c'est ça. Alors, Cyrano de Bergerac aussi, bon, autre personnage, hein, panache, on pourrait en parler longtemps. Hein. Ouais. Mais vous avez fait une grande place pour les femmes. Et puis, vous parlez de femmes rebelles. Je pense à Louise Michel, qui est la Jeanne d'Arc des Miséreux, dites-vous. Donc, c'est vrai que vous parlez longuement de Louise Michel, François Cereza.
Ben, je parle longuement de Louise Michel, d'abord, parce que elle en vaut la peine, ouais. Comme dit une certaine publicité. Et qu'en plus de ça, ce personnage qui est là aussi hors du commun est d'un courage incroyable. Parce qu'au moment où elle va être prise par les Versaillais, elle dit ben, « fusillez-moi si vous voulez ». Elle le dit, c'est pas... elle est défendue par qui ? Elle est défendue par Victor Hugo. Ouais. Je veux dire, d'ailleurs, il y aura une grande correspondance, au moment où elle va être envoyée d'ailleurs au bagne, entre Victor Hugo et elle, et un autre aussi inattendu, qui est un véritable républicain, qui est le Tigre, Georges Clemenceau, qui à l'époque, au moment où il y a la Commune, est maire de Montmartre. Et donc il prendra fait et cause aussi pour Louise Michel. Pourtant, Clemenceau, comme vous savez, c'est un véritable républicain. C'est un homme qui est né en Vendée. On aurait pu penser qu'il serait tout sauf républicain. Bref, en tout cas, Louise Michel est à l'opposé d'un Clemenceau ou même d'un Victor Hugo. Eh bien, ils se rejoignent quand même parce que ils ont le sens, encore une fois, du geste. Et ça, c'est... Bon, Louise Michel, qui était institutrice, qui est en 36 000 trucs, qui est finalement, elle a commencé par être rouge, si je puis dire, avec la Commune, et elle finira noire, c'est-à-dire avec l'anarchie.
Voilà. Alors vous dites institutrice qui refuse de prêter serment à Napoléon III. Bon, elle a créé une école libre, donc c'est vraiment... vous me parlez de l'inoxydable Louise Michel, ça j'ai bien aimé.
Oui, parce qu'elle est toujours, je veux dire, malgré toutes les épreuves qu'elle traverse, elle reste toujours droite, fière, solide, et pensant toujours à ce qu'elle veut, ce qui la compose. Alors on dit que, vous savez, qu'elle est née, qu'elle aurait peut-être du sang aristocrate et tout ça. Bon, enfin, bon, on peut toujours dire tout ce que l'on veut. Je veux dire, ce qui est important dans la vie, c'est pas... c'est ce que l'on est. Vous voyez, pas la façon dont on est né, mais la façon dont on se comporte. Ouais. C'est encore une fois, c'est un personnage incroyable. Bon, évidemment, il y en a certains qui diront les communards, ceci, cela. Ben oui, mais les communards, ils ont été ce qu'ils ont été, c'est-à-dire lutter déjà contre la bêtise un petit peu de Napoléon III, contre les Prussiens aussi, ils sont nationalistes, hein, il faut pas oublier. Donc c'est Louise Michel, c'est la révolutionnaire qui joint le geste à la parole, qui se mouille.
Qui prend du risque.
Et c'est ça son courage, raison peut-être pour laquelle aussi elle a attiré l'intérêt de gens qui ne sont pas anodins, comme évidemment comme Victor Hugo ou comme Clemenceau.
Ouais. Voilà ce que vous écrivez. Devenue une grande figure anarchiste, elle multiplie les conférences à Paris et en province. En 1895, elle fonde Le Libertaire, un journal co-dirigé par le Stéphanois Sébastien Faure, pacifiste.
Oui, et puis il y a aussi un personnage, il y a Rochefort aussi, qui est dans le coin, qui porte le nom, comme vous savez, du méchant dans Les Trois Mousquetaires, et qui est un type bizarre, parce que c'est lui qui, finalement, initie un petit peu Louise Michel à l'anarchisme, le drapeau noir flotte sur la marmite, et lui, quand il va y avoir le procès de Dreyfus, eh ben, il va être bizarrement anti-Dreyfus. Et elle, Là, c'est une seule petite zone d'ombre. Ouais. Elle va pas prendre. Je veux dire, elle se mouille pas. Elle n'est pas ou pour Dreyfus ou contre Dreyfus, comme Rochefort se montre contre Dreyfus. Et puis que quand même, il y a le truc général avec Zola et avec son protecteur et ami Georges Clemenceau, qui à l'époque est le patron de l'Aurore et qui va donner cette tribune à Zola avec J'accuse. Donc là, elle prend pas parti. Voilà, on peut dire que c'est le seul truc, peut-être par fidélité à Rochefort, je ne sais pas.
Alors, Olympe de Gouges, autre femme, vous dites Olympe de Gouges a du cran. Olympe, cette jolie femme, est courageuse, volontaire, brillante, audacieuse et élégante. Elle fait confiance à la Révolution trop. En 1793, elle s'en prend à ceux, Marat et Bert, qu'elle tient pour responsable des massacres de septembre. Donc, Olympe de Gouges, ça, grâce à vous, on la redécouvre. C'est encore une autre figure de femme très importante.
Oui, alors bon, il faut quand même nuancer, parce que je crois qu'il y a 2 ou 3 livres qui ont été faits sur Olympe de Gouges. Oui. Bon, c'est une femme hors du commun. La pauvre, elle va le payer de sa vie, parce qu'elle va être, je crois, la deuxième femme guillotinée après la reine. Elle prendra la défense de la reine. Elle est d'abord très en faveur des Girondins. Or, les Girondins sont les premiers à passer à la casserole au moment de la Révolution. Ils vont tous, de toute façon, y passer. Hein, je veux dire, même Robespierre, dont certains aujourd'hui
se revendique,
oui. Pour ce qui est de Olympe de Gouges, en tout cas, elle est, je dirais, une révolutionnaire qui a écrit les droits de la femme.
Voilà.
Hein. C'est une révolutionnaire en douce, mais qui est justement pour un certain humanisme dans la Révolution, ce qui n'est pas tout à fait le cas, parce que avec les Jacobins, on va guillotiner sec quand même, et on guillotine beaucoup, surtout pendant la Terreur. Quant au massacre de septembre, même si moi j'ai mis un personnage que je trouve être plein de panache, qui est Danton, un des personnages de la Révolution qui a véritablement du panache, qui a du panache, du courage, du brio, qui est un orateur en plus incroyable. Je veux dire, tous ces gens-là, pendant les massacres de septembre, alors que Danton est justement le ministre de la Justice, on ne les entend pas beaucoup. Il y en a qu'un qui veut s'y faire et tout ça, c'est Hébert. Mais Hébert, qui fait partie des extrémistes du jacobinisme, va être le premier à être envoyé à l'échafaud.
Ouais,
ce même Hébert qui avait créé un journal qui s'appelait Le Père Duchesne, qui se voulait, lui, justement, le révolutionnaire plein de panache et qui n'en avait aucun, puisqu'au moment où il est mené dans la charrette, il est avec un général qui était favorable à Hébert, et Hébert et pleure, appelle sa maman, et le général, qui est Ronsin d'ailleurs, je crois, ou Vincent, l'un des deux, lui dit écoute, le citoyen, un petit peu plus de dignité quand même. Et jusqu'à la bascule Charlot, il va se comporter comme lui qui a envoyé tellement de gens, lui qui a accusé Marie-Antoinette d'avoir des relations incestueuses avec son fils, qui est vraiment été l'horrible type. Je parle de lui parce que voilà un homme qui pensait avoir du panache de la Révolution et qui n'en avait aucun.
Il y a des faux panachards.
Ah oui, c'est même pas un panachard, c'est un triste cire, quoi. Ouais,
Alors, il y a Théroigne aussi de Méricourt, une autre femme. Vous dites, si Olympe a une tête, Théroigne a un corps. Et un joli corps, ma foi, on la surnomme la belle liégeoise.
C'est une belle fille, hein. Une belle fille, bon, elle en fait un peu beaucoup, c'est-à-dire que c'est un peu comme une comédienne. Elle s'habille en rouge, elle a des pistolets, elle tue personne d'ailleurs, hein.
Elle fait du buzz.
Voilà. Et puis, elle séduit quand même, hein. Parce qu'il faut avouer que cette personne, va ouvrir à un moment une sorte de salon littéraire où il y a des gens comme Camille Noumoulin, même Saint-Just, qui vont venir, tout ça. Bon, ensuite, elle va se mettre tout le monde à dos parce que elle se comporte de façon un petit peu anarchiste, justement. Et elle va d'ailleurs, je crois, enfin, je suis même pas sûr, participer à l'insurrection des Tuileries. Mais où là encore, elle en dit plus qu'elle n'en fait. Mais c'est un personnage, vous voyez, là aussi, c'est quand même. Si je parle de panache, c'est parce que C'est les grandes gueules, hein, on en revient à ça. C'est-à-dire que moi, bon, c'est pas toujours suivi de fait, contrairement à certains qui, eux, vont jusqu'au bout. Mais elle, c'est la déesse rouge. D'ailleurs, je crois qu'elle s'habille toujours en rouge quand elle va participer à certains trucs. C'est une, encore une fois, c'est une belle femme et elle séduit plus qu'autre chose. Mais là, malheureusement pour elle, elle finira folle, elle sera enfermée. Elle échappera à la guillotine, contrairement à Olympe de Gouges, qui, elle, s'étant attaquée à Marat, évidemment que à Hébert, comme le personnage dont je vous parlais tout à l'heure, et à Robespierre, en disant que c'était des seigneurs, S-A-I, eh bien, ils vont la condamner et elle va être exécutée. Donc, bon, la Révolution dévore ses enfants, comme vous savez, hein, c'est, quel est de qui est cette phrase, mais tous ces révolutionnaires dont on parle vont tous y passer jusqu'au retour de Barras, Carnot, etc., c'est-à-dire les gens qui vont un petit peu enterrer la terreur, quoi.
Alors, c'est vrai que Théroigne de Méricourt, c'est un personnage quand même. Elle va inspirer Baudelaire, je crois, Paul Hervieux, et elle sera jouée. Il y aura une pièce qui sera jouée par Sarah Bernard. Et quand on interrogeait la grande comédienne, dites-vous, elle disait Théroigne de Méricourt, elle a basculé dans la folie quand la Révolution a basculé dans la terreur. Donc là, c'est une panacharde qui devient un peu.
C'est ce que je vous disais, hein. Elle en dit plus qu'elle n'en fait. Mais je veux dire, c'est des gens qui laissent une trace parce que justement, ils ont un comportement qui est flamboyant.
Donc ils se brûlent eux-mêmes.
Voilà, et la flamboyance, c'est vrai que c'est à la fois très attirant, très séduisant, mais ça peut être dangereux.
D'accord. On va faire une pause musicale, François Cereza, et nous poursuivons notre conversation.
Oh,
François Cereza, nous poursuivons notre conversation autour du dictionnaire égoïste du panache français. Ça vient de paraître aux éditions Le Cherche Midi. Alors, vous avez laissé, parce que le panache, on peut se dire, c'est un peu de la virilité, c'est masculin, etc. Vous avez laissé la place aux femmes. Vous avez vraiment donné une bonne place aux femmes dans votre dictionnaire égoïste du panache français. Et je pense à George Sand, que moi j'aime beaucoup, et que vous... Je dis pas que vous la réhabilitez, mais enfin vous montrez, vous dites Madame Sand, qui pareil au sphinx antique, vivante et mystérieuse énigme, s'accroupit aux extrêmes limites de l'art avec un visage de femme, des griffes de lion, des ailes d'argile. Ça c'est pas vous qui l'écrivez.
Non, enfin, voilà. Je sais plus, c'est Victor Hugo ou Alexandre Dumas.
Je pense que c'est Alexandre Dumas.
Oui, parce que elle adorait Dumas, elle aimait beaucoup Hugo et Lamartine et Vigny. Voilà. En fait, tous ces gens qui faisaient partie un petit peu du même cénacle de romantique. Bon, elle a été très critiquée, elle a été traînée dans la boue, on l'a traitée de grosse vache, de tous les mots, tout ça, ben parce que c'était une séductrice, elle aussi, mmh, hein, il faut dire. Hein. Mmh. Donc, que ça soit Monsieur Chopin, Musset, etc., ils ont été, pas des victimes, mais ils ont été séduits par George Sand, parce que c'était une femme qui était sans doute séduisante. Donc, en plus, avait elle aussi quand même... un sacré caractère, je dirais, plus que le caractère, c'est le tempérament. Ouais. C'est la chose d'ailleurs qui est commune à tous ces personnages dont je fais le portrait succinct, parce que évidemment que ce sont il faut qu'il y ait quelque chose de rapide, parce que ça ressemble justement au panache. Le panache, c'est quelque chose qui est rapide, qui est, il y a un mot d'ailleurs, je n'arrive plus à le trouver, qui veut dire ça. C'est quelque chose encore une fois qui est presque irréfléchi. Raison pour laquelle, tout à l'heure, je vous disais, la pensée tue tout ce qu'elle touche. Si quoi, on commence à penser, il n'y a plus de panache. Hein.
C'est une façon d'être.
Voilà. Le panache, c'est une façon d'être. C'est un comportement général. On pense évidemment à Dumas lorsqu'il va rejoindre Garibaldi. On pense à Hugo lorsqu'il attaque Napoléon III. Je veux dire, ce sont des gens qui n'ont pas peur. Franchement, hein, et comme on disait tout à l'heure, c'est la faculté, c'est d'ailleurs aussi Albert Camus qui l'a dit, de dire non.
La faculté de dire non, de se rebeller, de résister. Alors, pour George Sand, vous citez par exemple Balzac, voilà ce qu'il dit d'elle. Elle n'a ni la force de conception, ni le don de construire des plans, ni la faculté d'arriver au vrai, ni l'art du pathétique, mais sans avoir la langue française, elle a le style. C'est vrai. Donc, cette saison de style, de tempérament, actuellement, nous vivons une époque très lisse, où il y a finalement le tempérament, c'est dont parlait Cézanne quand on lui présentait un jeune peintre, il disait il a pas assez de tempérament pour peindre. Donc cette notion de tempérament, de style, c'est très important pour la création, pour l'écriture, François Cereza.
Écoutez, je crois que le tempérament, c'est ce qui fait tout. On le disait au début de cet entretien. Il y a le style, il y a le tempérament, il y a le caractère. C'est-à-dire tous ceux qui émergent sont ceux justement qui relèvent la tête, c'est pas ceux qui... Il faut regarder vers le haut, il faut pas regarder vers le bas. Vous savez, il y a Cyrano disait... Edmond Rostand fait dire quelque chose à Cyrano qui, moi, me plaît énormément. Edmond Rostand, qui d'ailleurs a été au collège Stanislas. Je parle du collège Stanislas parce qu'il y a des gens comme Barbé d'Aurevilly ou comme le général de Gaulle qui ont été au collège Stanislas, et moi.
Voilà.
Donc, il fait dire quelque chose à Cyrano qui, moi, me plaît énormément. Déplaire est mon plaisir. Donc, voilà une phrase qui est formidable, provocatrice. Parce que le panache, il y a évidemment un côté de provocation. C'est-à-dire, ce que vous n'êtes pas capable de le faire, moi je vais le faire.
Ouais.
Et encore une fois, sans réflexion, sans pensée, j'y vais, ouais. Quitte à y laisser des plumes et quitte à y laisser la vie.
Oui, mais pour garder son âme.
Oui, c'est eux pensent qu'ils gardent leur âme comme ça, mais peut-être que les autres qui sont autour disent celui-là, il est débile.
Ouais. pour garder son intégrité, pour pas être corrompu. Enfin, le panache, c'est quand même à un moment donné, on met la limite.
Oui, mais c'est ce que je vous disais, c'est que au tout début, le panache, c'est aussi quelque chose qui peut être sot, qui peut être niais, ou considéré en tout cas par les autres comme tel. Vous savez, je pense à Clémenceau, qui lui avait, moi en tout cas je trouve du panache, même s'il a fait tirer sur les ouvriers, on m'a reproché de ne pas l'avoir mis, bah oui, je veux dire, le créateur des Brigades du Tigre, le père de la victoire en 1914, c'est aussi celui qui dit à propos de Poincaré, qui lui, alors justement, a pas beaucoup de caractère, a pas beaucoup de tempérament, Clémenceau dit à propos de Poincaré, c'est celui qui sait tout et qui ne comprend rien, ça veut tout dire, c'est formidable. Je veux dire, bon, Clémenceau, il s'est battu en ce fois en duel. Hein.
Ouais, c'est pas rien. Louise de Villemorin, autre femme, là je reste dans le secteur
oui,
des femmes.
Bien que...
Mais après, on va revenir à d'autres personnages. Louise de Villemorin, lumineuse de déconner, dites-vous, ce qui reste d'elle, un panache protéiforme et fantaisiste, au même titre que son œuvre Madame II. Et vous écrivez par la suite, du tempérament, Louise de Villemorin en avait à revendre, sa devise, j'aime bien, au secours, son emblème, le trèfle à quatre feuilles, quelque chose entre le désespoir et la chance. C'est vrai que Louise de Villemorin, c'est une liberté d'être.
C'est une liberté et une libertaire aussi. Hein.
Ouais.
Bon, une séductrice, là encore.
Ouais.
Hein,
ouais.
Et quand elle a été avec André Malraux, et elle disait, par dérision, il faudrait peut-être quand même pas qu'ils me prennent pour Marilyn Malraux.
Mmh.
Ce qui voilà. est plutôt voilà. drôle de sa part, mais c'est une femme... séduisante, évidemment, comme vous savez, Villemorin, c'est les plantes. Elle, c'est une belle plante. Elle est un peu bancale parce qu'elle a eu une mauvaise maladie quand elle était petite, ce qui lui donne et ce qui accentue son charme. Des gens comme Paul Morand et Malraux, évidemment, seront très, très, très attachés et très admiratifs du caractère et à la fois de la séduction, de la gentillesse, mais aussi de la détermination, de l'opiniâtreté de cette femme qui aura écrit un livre Madame II, qui n'est pas l'écrivain qu'elle aurait pu être, c'était mais bon, c'est quand même un film, je crois, qui était avec Daniel Darieux ouais. et qui a eu beaucoup de succès à l'époque et qui est tout à fait à l'image de son auteur, de Louise de Villemorin, qui est encore une fois indépendante. Et à cette époque, quand même, il n'y en a pas beaucoup.
Ouais, mais c'est-à-dire, elle est insaisissable, et c'est le même adjectif que vous faites pour le panache, qui est le contrat de la prudence, est insaisissable, et vous vous dites, Coco Chanel était insaisissable. Donc c'est un peu le fait, en ayant du panache, on échappe à la norme, on échappe à la standardisation, au côté vraiment lisse de la société.
Ben, quand on est étincelant, quand on est flamboyant, on échappe. J'en reviens, excusez-moi, vous voulez me faire parler des femmes, mais bon, j'en reviens à Athos. Et Athos, il est comme ça. Il est étincelant, il est flamboyant, il est insaisissable. Et bien, Coco Chanel, c'était un peu ça. Raison pour laquelle elle a réussi formidablement sa vie professionnelle, et raison pour laquelle elle a pas tellement réussi sa vie privée. J'allais dire un peu la même chose pour Louise de Villemorin, quand même, hein, parce qu'elle s'est mariée plusieurs fois avec des princes, des ceci et cela. Elle a eu des filles, elle qui reprochait à sa mère de ne pas s'être occupée d'elle, elle s'est pas occupée de ses filles. Donc, vous voyez, je veux dire, ce que l'on est pour l'observateur,
ouais.
ce que l'on est dans la vraie vie, il y a évidemment un fossé entre les deux, et pour réunir les deux, parfois c'est pas toujours facile. Donc on peut avoir du panache et puis en manquer, en tout cas dans sa
ouais.
vie personnelle, et subir les reproches de ses proches.
Ouais, c'est pas si simple que ça. Pour Coco Chanel, vous montrez, pour elle qui aime l'argent, il y a d'abord la classe. L'argent ne peut acheter les bonnes manières, les principes, le respect, le tempérament, le bon sens, la confiance, l'intégrité, l'amour. Oui, la classe. Bon, voilà, c'est le sens du style. On revient toujours à cette notion-là. Alors, on va parler des hommes, puisque Darien, Georges Darien. Moi, je le connaissais un peu, mais voilà. Et vous me parlez, voilà, de cet écrivain vraiment qui mérite d'être redécouvert, qui a d'ailleurs eu le prix des bouquinistes, un prix qui récompensait une œuvre de qualité reflétant ce qu'on appelle l'esprit parisien.
Ouais, donc, le prix des bouquinistes, c'est le prix un peu des libertaires. Hein, voilà. Il n'a pas eu d'autres grands prix. Ça a été un grand écrivain. Il a été remis un petit peu au goût du jour par l'éditeur, là, dont je me souviens plus le nom, qui a disparu maintenant. Et bref, en tout cas, ouais. Il a dans les années 30, vrai, hein, ouais. Il a été tout de suite admiré par le surréaliste breton.
Breton.
Oui. Ouais. Qui pourtant, a priori, comme ça, ils n'ont pas grand-chose à voir, parce que Breton était proche du Parti communiste, c'était quand même une sorte de bourgeois, si vous voulez. Ouais. Alors que Darien, c'est vraiment le gars qui en a bavé.
Qui en
a bavé. Et bon, il a écrit ce livre que je trouve, moi, merveilleux, formidable, qui s'appelle Le Voleur, et qui est devenu un film de Louis Malle, comme vous savez, avec Jean-Paul Belmondo, ouais. Et qui peut être résumé en une phrase. Je fais un sale métier, mais j'ai une excuse, je le fais salement.
Alors, est-ce que vous écrivez aussi sur Darien, dans un pamphlet d'une violence roborative, les pharisiens, il attaque Drummond, anti-dreyfusard et antisémite, auteur de la France juive, il écrit, c'est au moral et au physique le plus grandiose échantillon de crétinisme illuminé qui fut possible de rencontrer.
Bah oui, c'est ce qu'on aime, hein. Voilà. C'est qu'il est capable de dire ça. Parce que Drummond, c'est la pensée de l'époque, hein. C'est c'est l'antisémitisme qui existait dans toute sa plus grosse bêtise, quoi. Voilà. C'est le moins qu'on puisse, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc lui, bah il s'élève encore une fois seul. Il a pas peur. C'est toujours celui qui dit non. Drummond est un con. En gros, c'est ce qu'il dit. Voilà. Et il a pas tout à fait tort. Voilà.
Et vous dites, à la suite d'une publication, il sympathise avec Bernard Lazare, un juif anarchiste qui a théorisé le sionisme libertaire, auteur de l'antisémitisme, son histoire et ses causes. Donc voilà, Darien, il fait un peu sa galaxie.
Oui, je me demande s'il n'y a pas des liens aussi avec Marius Jacob, vous savez, qui est le créateur, évidemment, de l'anarchie aussi. Vous savez, quand vous faites un panel comme ça avec 52 personnages, il faut quand même se réduire un petit peu. Moi, je ne suis pas le biographe exclusif de Georges Darien ou de Tartampion, tout ça. Ce que je veux, c'est une allure générale. Et l'allure générale, c'est aussi ça, le panache. Mmh. C'est-à-dire que c'est ce qui séduit, c'est ce qui brille, c'est ce qui... Et bien, si on commence à gratter derrière, évidemment, ça brille pas toujours.
Alors, pour revenir à Darien, un voleur, dites-vous, l'existence selon lui est aussi bête, aussi vide, aussi illogique que pour ceux qui la volent, que pour ceux qui la gagnent. Il hait ceux qui lui ont volé sa vie, alors il leur vole cette morale dont ils sont si fiers. Donc ça, c'est toujours votre style, François Cereza, d'inverser un peu les idées reçues.
Oui, d'inverser les valeurs aussi. Pas d'inverser les voleurs, les valeurs. Oui. Est-ce que Darien a été voleur d'ailleurs, parce que d'avoir écrit ce livre... On pourrait le penser, encore une fois, vous voyez, il a écrit beaucoup de livres, hein. Il y a même, un omnibus qui lui est consacré avec ses œuvres, parce qu'il a écrit aussi un livre qui s'appelle Biribi.
Oui, voilà.
Évidemment, il parle des joyeux, hein. Joyeux fait ton fourbi. Il y avait un formidable livre les noms de Julien Blanc. Qui était un livre, je me souviens, qui avait été réédité par les bons soins de Louis Nucera aux éditions Lattès. Et Julien Blanc a été lui aussi avec les Joyeux à Tataouine. Et donc il suit d'une certaine façon le cheminement de Darien. Et Darien, vous savez, quand on en a croqué, bavé et tout ça comme ça, ensuite ça forme le caractère. Hein. C'est pas les gars qui sont sur les bancs de l'université.
Voilà ce que vous écrivez encore. Darien, c'est le panache de la haine, un style acéré, des formules cinglantes. À côté de lui, Blois et Vallès sont des plaisantins.
Oui, mais je dirais même que Darien, ça pourrait presque donner naissance à un Céline. Hein. Mmh. C'est-à-dire un cri poussée dans l'humanité, quoi. C'est, je me souviens, c'était la publicité qu'il y avait dans, pour Voyage au bout de la nuit. Mais, Darien, c'est ça, c'est les gars, on n'arrive pas à lui mettre la main dessus, c'est des ingérables, hein. Ils peuvent partir dans un sens comme dans l'autre. D'ailleurs, on sait bien, Céline, dans quel sens il est parti à un certain moment quand il a commencé à écrire ses pamphlets. Mais, Darien, je veux dire, c'est, je pense pas que c'est quelqu'un qui aurait pu, passer à l'acte de tuer, vous voyez. C'est pas le Goncourt, la guillotine, c'est le Goncourt des assassins. Hein. Comme Lassner, qui a fini là, ouais. Qui était content finalement d'être guillotiné. Lui, je pense que c'était pas jusqu'à ce point-là. Mais c'est aussi, on pense à Lassner, hein, le boulevard du crime. Ouais. C'est des gens qui sont issus d'une moyenne bourgeoisie, qui ont donc reçu une certaine éducation. Ce qui peut les faire réfléchir, contrairement à certains bas de plafond assassins qui, eux, tueraient père et mère pour gagner 6 sous un quignon de pain. Et on sait que... moi, j'ai eu des témoignages par Alphonse Boudard ou par José Giovanni, qui étaient des amis, et qui ont été en prison hein, pendant 10 ans, ce qui est quand même lourd. Et donc, on rencontre, évidemment, tout ça. Donc, Darien n'appartient absolument pas, évidemment. C'est un seigneur.
Ah, voilà. Il dit d'ailleurs, vous citez ce qu'il... Les victimes sont complices du système qui les oppresse et les prive de dignité, tous coupables, moi en premier.
Ah ouais, ça c'est beau ça de dire ouais, ça, hein. Ouais. Plutôt que de toujours dire c'est à cause de l'autre. Ouais, donc, lui, il dit, ben oui, moi le premier, voilà.
Et ce que j'ai bien aimé, c'est que, pour les éditeurs justement, voilà, Monsieur Stock, j'ai reçu votre carte, voici ma réponse. Si vous ne publiez pas mon roman en octobre prochain, je vous tuerai. Là, il y va pour les éditeurs.
Évidemment qu'il ne l'a pas tué, vous voyez. Ouais, c'est... Ouais. Mais le fait de dire ça, c'est quand même... c'est bien, ça fait une moyenne avec ceux qui s'aplatissent, quoi. Voilà, hein.
Exactement.
C'est pas... C'est comme quand De Gaulle disait à propos de Jean Monnet, il est à plat ventre devant les États-Unis. Ça me plaît beaucoup. Ça, Jean Monnet, vous savez, l'Européen, ceci, le roi du plan. Là aussi, hein, De Gaulle, Dieu sait qu'on peut lui reprocher des choses, mais franchement, ouais. c'est un caractère, c'est un tempérament, c'est un sacré mec. Hein.
Alors, Rabelais, moi j'aime beaucoup Rabelais. Rabelais, météore du XVIe siècle, né à peu près en 1483 et mort sans doute en 1553, est un phénomène lumineux, dites-vous, qui résulte de l'entrée dans l'atmosphère terrestre d'un corps solide venant de nulle part. Il est encyclopédique, son œuvre est complexe. Voilà, et c'est vrai que Rabelais vraiment mérite aussi d'être... relu, redécouvert, même si on le lit toujours, mais enfin, c'est un tempérament en soi, c'est une nature d'écrivain.
Ah oui, c'est... Vous vous rendez compte ? Ça remonte loin, quand même. Hein. Ouais. Je veux dire, le mec, il avait quand même déjà ça, il avait de l'estomac, comme on dit en argot, quoi. Je pense à François Villon aussi, hein, parce que c'est un peu des... Ouais. Lui, François Villon, hein, par contre, il a tué. Donc c'est vraiment le bandit. Rabelais, c'est, on dit toujours un esprit rabelaisien. Rabelais, c'est quand même Pantagruel, Gargantua, c'est des personnages auxquels se sont assimilés, pas toujours d'ailleurs dans le bon sens, les Français. Parce qu'on dit toujours c'est gargantuesque, c'est pantagruélique et tout ça, avec des gens qui bouffent beaucoup et qui boivent beaucoup. Mmh. C'est quand même un peu limité, vous l'accorderez. Ouais. Hein. Rabelais, c'est autre chose. C'est une vue. C'est des paroles qui sont devenues évidemment presque passées dans le langage courant. C'est une météore, c'est bien ça, c'est-à-dire c'est quelque chose qui passe comme ça, qui est difficile à le saisir. Et puis, contrairement à ce qu'ont beaucoup dit certains écrivains, notamment nos chers romantiques, hein, qui eux sont toujours en train de souffrir, et qui détestaient pour la plupart Rabelais, eh bien non, Rabelais, c'est vraiment un des seigneurs, là aussi, j'emploie encore ce mot, de la langue française et de la littérature.
Ouais. Absolument. Ce qui fait dire à Céline, j'ai eu dans ma vie le même vice que Rabelais. J'ai passé moi aussi mon temps à me mettre dans des situations désespérées. Comme lui, je n'ai rien à attendre des autres. Comme lui, je ne regrette rien. Donc, c'est une nature d'écrivain, vraiment, Et Rabelais, c'est un homme avant tout, donc ça nous interroge sur la condition humaine.
Oui, mais c'est la phrase de Céline, de toute façon, est tout à fait juste, parce que c'est en même temps des solitaires, et l'écrivain ne peut être que solitaire. L'écrivain est un crucifié, d'une certaine façon. Si jamais c'est l'écrivain qui va dans tous les trucs mondains, qui va dans les cocktails et tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est des écrivains à la noix, ça. L'écrivain est un rebelle, l'écrivain... Enfin, je veux pas faire le panégyrique non plus de l'écrivain qui est en marge d'eux, mais un écrivain doit être en marge d'eux. Il doit pas être d'accord avec tous les grands élans publics. Il doit pas être d'accord avec tout ce qui est décidé en politique ou je ne sais quoi. C'est lui qui, justement, a un son un petit peu différent, qui a une tonalité différente, qui a une et qui dit, ben voilà, parce que. Les choses, c'est pas aussi facile que ça. Et Rabelais, à son époque, était évidemment comme ça.
Voilà ce que vous écrivez. Admirateur de l'Antiquité, François Rabelais préconise un bonheur selon la nature. Il est à la fois Zénon, Aristippe, Épicure, un stoïcien, un hédoniste, un épicurien et surtout pas un calviniste. C'est pas un rabat-joie.
Ah non, ça... Désolé pour nos amis protestants, mais bon, il est loin évidemment de ça. C'est-à-dire que et c'est pas non plus le moine Bayard digne du moine de Robin des Bois, frère Tuc. C'est pas parce que encore une fois, on l'assimile un peu trop à ça. Mais je me souviens, j'avais été voir un spectacle qui était, je crois, mis en scène. Par Henri Virlegeux. Alors bon, c'est un acteur qui dira pas grand-chose peut-être aux gens, mais c'est un formidable acteur et c'était la mise en scène de Rabelais. C'était avec Henri Virlegeux, mais c'était mis en scène par Jean-Louis Barrault. Donc et j'avais vu ce spectacle, j'avais je sais pas 17-18 ans et je dois avouer que j'avais été ébloui non seulement par les mots mais par la santé qui se dégage de ça, parce que c'est une littérature de santé, Rabelais. C'est une littérature qui va de l'avant, c'est pas une littérature qui se regarde le nombril. Alors, de temps en temps, on peut trouver ça un peu mordant, sinon agressif ou véhément, mais là, on rejoint les gens et les littérateurs comme Céline. Même comme Léon Blois, hein, c'est-à-dire que on n'est jamais d'accord. Alors, ça fait partie des ingérables. Bah oui, bah voilà, c'est les ingérables qui nous plaisent. C'est pas ceux qui lèchent le cul de toutes les sommités politiques, culturelles et littéraires.
Voilà ce que vous écrivez encore, François Cereza. À l'inverse, Rabelais est le type du bon sens chaud, revigorant, proverbial comme Villon, sentencieux tel un paysan tourangeau. Les doctes solennels ne comprendront jamais rien au formidable coup d'éclat de Rabelais dans la langue française. C'est un polémiste de bonne humeur.
Oui. Voilà. Rappelez-vous ce que je vous disais au début. Quand j'ai fait ce livre, je voulais que ça soit un livre de bonne humeur. Je voulais que ça soit un livre de... Vous savez, on dit toujours, ah ben les gens, c'est un, ça fait un ballon d'oxygène, hein, on respire un peu mieux. Eh bien, je voulais que ce livre soit comme ça, et notamment avec des gens, évidemment, comme Rabelais.
Voilà. On va faire une pause musicale, François Cereza, et nous reprenons notre conversation.
Il y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, des anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien. Ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais. Et lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes, ils sont morts 110 fois. pour que dalle. Et pourquoi, avec l'amour au poing sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser, ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et elle n'a pas un sursang, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Et elle n'a pas un sursang, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
Et oui, François Cereza, troisième round avec vous autour de votre livre, Dictionnaire égoïste du panache français, qui vient de paraître aux éditions Le Cherche Midi. Bon, c'est un poète, un livre de chevet, c'est un exercice d'admiration très réussi. Et puis, il y a un personnage qui est un personnage colossal, c'est Danton. Je voudrais qu'on en parle. Vous dites, peu importe, ils font ses discours enflammés, le sauve, son incroyable bagou, son sens de la formule, moi vendu, je suis impayable. Voilà, Danton, il faut vraiment que vous nous en parliez.
Ah, écoutez, Danton, évidemment, on peut faire allusion à deux films, moi qui m'a. Parce que c'est. Vous savez, comme disait un grand cinéaste qui s'appelle Truffaut, cinéma et littérature ont partie intimement liées. Eh bien, je dois avouer que je suis arrivé à la littérature par le cinéma, même si parfois, des fois, ça a été un petit peu l'inverse aussi. Mais un film m'avait beaucoup frappé quand j'avais, je sais pas, 13-14 ans, donc j'étais très jeune, qui s'appelait La terreur et la vertu de Stelio Lorenzi, et où les deux héros étaient Robespierre et Danton, qui, comme tous les deux, comme vous savez, tous les deux ont mal fini.
Ouais.
Mais j'avais été impressionné, et impressionné plus peut-être par Danton que Robespierre, parce que Danton, il a une dimension humaine que n'a pas Robespierre. Danton, il aime les gens. Danton, il aime manger, c'est un rabelaisien. Danton, il aime les femmes. Danton, il aime les coups d'éclat. D'ailleurs, sa vie courte, puisqu'il est mort à 30 et quelques années, n'est qu'un perpétuel coup d'éclat. Je veux dire, c'est lui qui crée le tribunal révolutionnaire, qui va le condamner à mort. C'est lui qui dit la patrie est en danger. Et c'est lui qui, lorsqu'il va être guillotiné, regarde ses juges, ou peut-être même Robespierre qui est planqué dans un coin chez lui quand il passe sur la charrette. Je lègue mes jambes à Couthon, qui était paralytique, et mes couilles à Robespierre. Donc, vous vous rendez compte un peu, dans ces moments quand même où on peut qu'imaginer une chose, c'est que le mec, il a les chocottes, parce qu'il va être guillotiné, il va mourir. Hein. Eh bien, lui, il va sur sur la guillotine, sur l'échafaud, pardon, et il dit au bourreau, qui était Samson, je crois, bourreau, tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. Un mec, pour qu'il dise ça, on n'imagine pas. Et d'ailleurs, ils ne l'ont pas fait, ni Robespierre, ni Saint-Just, ni Couthon, ni Lebas, ni Henriot, tous les mecs qui étaient favorables donc à Robespierre, à l'incorruptible, on ne les imagine pas en train de dire ça. Donc, Danton, c'est un personnage qui se situe dans la lignée de Commandeur Rabelais. Alors, on peut lui reprocher certaines choses. Je vous avais dit tout à l'heure, quand il était ministre de la Justice, on peut pas dire qu'il soit intervenu au moment où il y a eu les massacres de septembre. Mmh. Bah oui, c'est une erreur. Mais toute révolution, justement, donne naissance et enchaîne des, donne naissance à des erreurs.
Danton, c'est l'éloquence. L'éloquence, actuellement, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Et... Non, mais c'est vrai. C'est le verbe. Le panache aussi fait partie de ça.
Il est un peu un clone de Mirabeau. Mmh. Mirabeau avait une éloquence incroyable. Mais tous ces gens, de toute façon, hein, faut pas rêver. Je vous dis, à la Révolution, c'est toujours fait par les classes moyennes, par les petits bourgeois, par des bourgeois. Le bras armé, c'est peut-être le peuple. Et je dirais même que c'est les artisans. Parce qu'on oublie quand même de dire une chose, c'est que les massacres de septembre ont été perpétrés par tous les artisans qui venaient du faubourg Saint-Antoine. Peut-être qu'il y avait certains sans-culottes qui se sont mêlés à eux, des gens du peuple, je veux dire, mais c'était surtout les artisans. Il faut dire que il y avait une menace qui avait pesé, raison peut-être pour laquelle Danton d'ailleurs n'est pas trop intervenu. Il y avait une menace qui avait été lancée par Frédéric de Prusse, je crois, enfin par le Prussien. Si jamais vous touchez à la reine, on rentrera dans Paris et on vous passera tous au fil de l'épée. Donc évidemment que ça a provoqué chez les Français cette espèce inexcusable par ailleurs, hein, parce que c'est là où a été massacrée la princesse de Lamballe, inexcusable par ailleurs, mais bon, bah oui, voilà, on est rentré dans les prisons, on a sorti les gens qui étaient, les prêtres, des émigrés, etc., et on les a tous massacrés.
Alors, autre personnage de roman, quasiment, Samar.
Je n'en fais pas le portrait de Samar. Hein.
Non. Non, mais vous l'évoquez.
Oui, je l'évoque au moment de son exécution. Il faut dire que le bourreau s'y est repris à 10 fois ou 15 fois pour lui couper la tête avec une hache. Voilà. Vous voyez un petit peu.
Dans Sous l'échafaud, on songe à Samar, accusé de conspirer contre Richelieu, héros d'un drame d'Alfred de Vigny. Justement, ouais. C'est pour ça que j'en parle. Il est question de noblesse humiliée et abattue par Richelieu. Le jeune favori de Louis XIII s'inclina plusieurs fois devant la foule avant d'être décapité. Le bourreau dut s'y reprendre à 10 fois pour séparer la tête du corps. Le panache du désenchantement, dites-vous. C'est pour ça que je vous pose la question.
Dans ces cas-là, il vaut mieux la guillotine. Hein. Saint-Marc, 10 fois pour séparer la tête du corps, vous imaginez.
Après, bon, il y a aussi, vous évoquez Guy Môquet, le 22 octobre est une belle journée pour mourir, mais a-t-on le droit de mourir à 17 ans ? Dans sa lettre, Guy Môquet n'accuse ni ses bourreaux, ni le destin. Il va à la mort avec force, courage et panache.
Ah oui. Ça, Guy Môquet, bon, c'est un exemple, vous rendez compte, un peu, 16-17 ans, ce pauvre petit gars, quoi. C'est pour ça que dans toute la partie qui est consacrée à Guy Môquet, évidemment que j'aurais pu faire cette lettre qu'il fait à sa mère, à son parent, et puis avec cette histoire de mouchoir, mais ce qui m'a touché au plus profond, parce que ça remonte loin, là aussi, c'est le poème de d'Aragon. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Mmh. Et qui est évidemment... dédié à Guy Môquet, entre autres, puisque je crois qu'il y a aussi un chrétien qui est dedans, qui a été aussi exécuté par les barbares nazis, et il faut pas avoir peur de le dire, ça c'est Salboche qui nous emmerde depuis longtemps. Fusiller quelqu'un, un garçon qui a 17 ans, je trouve que c'est vraiment... C'est plus que lamentable, c'est scandaleux, bon, on le sait et tout ça. Mais ce portrait, encore une fois, de Guy Môquet, je voulais le lier à un poète que j'aime beaucoup, même si le personnage me plaît un peu moins, qui est le plus grand poète, sans doute, du XXe siècle, qui est Aragon, Louis Aragon.
Alors, on va parler, justement, littérature. Maurice Druon, qui est quelqu'un que vous avez beaucoup admiré. Druon est tout terrain, lui, le dandy, il se fiche du candidaton, l'homme qui aime déplaire. Quand il s'oppose à l'entrée de Giscard à l'Académie, beaucoup se réjouissent. Le roi des vaniteux qui aimait les honneurs, qui les accumulait, prend une volée de bois vert.
Oui, ben je crois que, enfin je suis même presque sûr d'ailleurs, qu'à l'époque, Maurice Druon avait fait un article dans le Figaro, c'était le franc-parler, où il disait, mais quel intérêt pour nous d'avoir à l'Académie quelqu'un qui nous raconte comment il range ses pull-overs jacquard dans son placard. Ouais. Donc, moi je ne peux évidemment qu'aller dans le sens de Maurice Druon, d'abord parce que j'aimais pas Giscard, ouais. Et parce que bah, Maurice Druon, c'est, bah, ça ressemble à tout ce que je raconte sur 400 pages sur le panache français. C'est un homme qui était parfois un peu théâtral, qu'on pouvait considérer même comme un peu vaniteux. Moi, c'est pas mon cas, hein, parce que moi, j'aimais beaucoup Maurice, pour l'avoir évidemment bien connu. Certains le comparaient à Sacha Guitry, parce qu'il avait un sens du costume, il avait un sens du verbe, il parlait haut et fort. Ça fait quand même une moyenne avec les espèces de petits vampires qui sont autour de nous et qui parlent tout doucement comme ça en voulant être gentils avec tout le monde. Non, et voilà, Maurice c'était une figure, quoi. C'était une figure, une éminence, parce qu'il a quand même été secrétaire perpétuel de l'Académie française, quelqu'un qui ne s'en laissait pas compter par ailleurs, et qui, moi, lorsque je venais à l'Académie française, parce qu'il m'invitait, il me voyait arriver, et là, à l'époque, il y avait l'aboyeur, il y avait lui en grande tenue, et on disait « Monsieur et Madame Cereza », je venais avec ma femme, et là, il écartait les bras, il éclatait de rire, il disait « Père Cereza
!» Enfin, c'est pour vous... Très important. Alexandre Dumas, faut qu'on y revienne. Dumas pris à partie par un plumitif qui lui demandait inopinément s'il s'y connaissait en nègre, lui rétorqua, mais très certainement, mon père était militaire, mon grand-père un nègre et mon arrière-grand-père un singe. Vous voyez, monsieur, ma famille commence ou la vôtre finit. Ça, je trouve ça épatant.
Ah, c'est formidable, hein. C'est, je veux dire, le sens de l'humour, le sens de la répartie, je veux dire, tout le monde. On a toujours, il y a toujours des espèces d'esprits chagrins de qui sont là à dire oui, mais en fait, hein, Alexandre Dumas, c'est pas lui qui écrivait ses livres, c'est Maquet qui les a écrits, c'est Maquet qui a écrit Comte de Monte Cristo, c'est Maquet qui a écrit Les Frères Mousquetaires, c'est Maquet qui a fait la trilogie La Dame de Montsoreau, La Reine Margot et les 45, et puis quoi encore, qu'ils arrêtent de raconter des conneries. Je veux dire que Dumas, comme Druon d'ailleurs, ait eu une école avec des gens qui collaboraient avec lui, c'est vrai, dont Maquet, dont Gérard de Nerval aussi, ou d'autres passionnés comme Théophile Gautier. Donc, mais Dumas, c'est Dumas. Ouais. Dumas, c'est les personnages, c'est lui qui les crée, c'est lui qui fait recherche, c'est lui qui fait. En plus de ça, quand Maquet s'est séparé, parce qu'ils ont fini par se séparer, il y a même un film, je crois, qui a été fait là-dessus, où quand Maquet n'est plus avec Dumas, il essaye de faire des livres. Vous avez entendu parler, vous, des livres de Maquet, non ?
Non.
Bon, ben voilà, c'est tout.
Georges Feydeau, François Cereza. Moi, je m'attendais pas à voir Georges Feydeau dans votre dictionnaire. C'est du Claude Chabrol en plus rigolo et des mots qui font mouche. Exemple, certains maris ne sont bons qu'à être cocus et encore faut-il que leur femme les aide. Donc c'est vrai, Feydeau, c'est un peu l'invité, pas de la dernière heure, mais un peu un invité inattendu pour moi.
Ben, Feydeau, c'est fait de lumière, en fait. Hein. C'est marrant de porter ce nom-là, Feydeau. Maintenant, c'est pas liquide du tout, au contraire, c'est consistant, c'est lumineux, c'est ensoleillé. C'est drôle, c'est l'esprit à la française, comme, je dirais d'une certaine façon, dans la lignée un petit peu de Molière, quoi. Hein, c'est, il faudra reconnaître, je pense que maintenant on reconnaît de toute façon, sans avoir un filet à la patte, que un Feydeau, c'est un auteur formidable et en plus éminemment sympathique, qui était un type d'ailleurs assez bizarre, parce que en dehors des pièces qu'il écrivait, qui sont presque toutes ce qu'on appelle du boulevard de théâtre, donc des comédies, hein, lui n'était pas si rigolo que ça dans la vie.
Oui, alors j'ai découvert qu'il était collectionneur. Le champion du rire, dites-vous, fin observateur de la comédie humaine, était un homme de goût, riche et dépensier. Il vivait entouré d'œuvres de Van Gogh, Sisley, Corot, Courbet, Cézanne, Monet, Utriot. C'est, voilà, on découvre grâce à vous l'arrière-pays de...
Oui, oui, exactement. C'est découvrir ce personnage qui, dit-on, est bisexuel aussi, qui a des drôle de tendance, c'est pas, je parle pas de sexualité, mais qui a de drôles de tendance qui ne ressemblent pas à ce qu'il écrit, et il collectionne quand même des grands maîtres, hein. Donc c'est un esthète, et en plus très érudit. Mais ce qui nous regarde, nous, et ce qui nous importe quand on voit ou quand on parle de Feydeau, c'est les pièces de théâtre qu'il a écrites et les pièces de théâtre qui se donnent. Encore maintenant, il faut savoir qu'il y a le cinéma qui s'en empare, ou même le théâtre, il se joue en ce moment Feydeau à Paris, voilà.
C'est du Feydeau, c'est comme on dit, c'est du Mauriac ou c'est du Simenon, il est resté dans...
Non, c'est du Molière, moi je vous dis, c'est du Molière, c'est dans la lignée de Molière, hein. C'est vraiment très drôle parce que, bon, lui, c'est vrai qu'il a choisi des personnages bien typés, bien précis, qui sont en général des cocus et des fâcheux.
Romain Gary, on peut pas parler du panache sans parler de Romain Gary quand même. Romain Gary, dites-vous, a fait sienne cette maxime solaire de Joubert dans le style de Saint-Augustin, excelle et tu vivras. C'est vrai que Gary, il a, voilà.
Ouais, lui aussi, c'est la lumière, hein. Ouais. Mais moi, j'ai eu la chance, bon, je l'ai déjà raconté, évidemment, mais je vous le raconte aussi à vous. J'ai eu la chance de le rencontrer. C'était, d'ailleurs, après, je l'ai revu, mais j'étais évidemment pas ami avec lui, contrairement à mon ami Nucera, qui, lui, était ami avec Romain Gary, parce que Romain Gary a vécu à Nice avec avec sa mère, à qui il a consacré ce superbe livre, qui est, évidemment...
La vie en soi, non,
non.
La promesse de l'aube.
La promesse de l'aube, voilà. Et donc un jour j'étais avec un copain, j'étais au métro Sèvres-Mabillon et en fait dans le bistrot qui est juste là et on prenait un café et puis je dis à mon copain, tiens regarde c'est Romain Gary, parce que Romain Gary était reconnaissable, il portait toujours une saharienne, il avait les cheveux un peu longs et ce regard bleu ciel, vraiment il a les beaux yeux quoi, un bel homme. Et il est venu s'asseoir à côté de nous pour lui aussi consommer quelque chose. Et puis il m'a entendu dire, parce qu'à l'époque j'étais en bisbille un peu avec ma mère, parce qu'elle voulait que je fasse ceci, que je fasse cela. J'avais 20 ans et c'est vrai qu'on était plutôt glandeurs, même si on faisait des petits boulots, de manuel notamment. Mais j'étais donc en tout. Elle me disait, oui, il faut que tu trouves quelque chose, il faut que ceci, il faut que cela. Ça veut dire les parents, c'est normal. Et d'un seul coup, il s'est tourné vers nous, et il est intervenu dans notre conversation, enfin, en me disant, vous savez, une mère, on n'en a qu'une. Et lui, la sienne était morte déjà depuis longtemps, puisque c'était quand il était, pendant la guerre, aviateur, où il a été d'ailleurs compagnon de la Libération. Il a considéré d'ailleurs De Gaulle comme une sorte de père de substitution, qu'il n'avait pas eu, puisque son père l'avait abandonné pour partir avec une jeunette. Et donc on a continué, puis il dit, vous savez, je vais vous dire une chose, une mère, quand on y pense vraiment, ça fait pleurer. Eh bien moi je vais vous dire une chose, pour me laver les yeux, je pleure tous les jours. Mmh. Et je me souviens de cette phrase, parce que c'est surtout celle-là qui m'avait frappé, hein, en me disant, tiens, mais c'est peut-être pour ça qu'il a le regard aussi clair, aussi bleu, parce que c'était le bleu piscine, quoi, myosotis, hein, vraiment, hein. Et évidemment qu'ensuite j'ai suivi ce que faisait Romain Gary, de par l'amitié que j'ai eue ensuite avec Louis Nucera, sachant qu'il avait été ami avec lui à Nice, mais en plus de ça, parce qu'il a été, comme vous savez, marié avec la petite qui jouait avec Belmondo, Jean Seberg. Or, Jean Seberg tournait dans un film qui s'appelle La Kermesse de l'Ouest avec Lee Marvin et Clint Eastwood. Et elle a eu une aventure avec Clint Eastwood. Donc, évidemment, les bonnes âmes se sont empressées d'aller dire à Gary que Gene Seberg avait eu une aventure avec Clint Eastwood. Ni une ni deux, il a pris son colt. Et il a dit, je vais aller le défier en duel. Et ben Clint Eastwood est parti.
Ouais, voilà. Mais c'est vrai, alors vous dites de Gary, le mérite éclatant de Gary, c'est d'avoir su découvrir dans un monde qui n'était plus le sien des ressources d'une seconde jeunesse. Gary, c'est la seconde chance, la preuve. Il obtient le Goncourt deux fois, il change, il est prêt à changer d'identité, il prend un pseudo, enfin, il se joue des... Il prend des masques.
Oui, mais je pense que sa vie a été marquée par ça. Je veux dire, je vous parlais très vite de son père.
Oui.
Et lui-même d'ailleurs disait qu'il avait des origines russes, tartares, enfin c'était la double face, c'est Janus quoi, c'est tout le temps, hein. et je crois que le mensonge pour lui, le mentir vrai, c'est vraiment une formidable en plus source d'inspiration pour ses livres. Alors moi, à part La Promesse de l'Aube, bon, il y a des livres qui sont au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Il y a plein de trucs comme ça qui ont été faits. Je dirais pas que ça, c'est un styliste, hein, mais c'est un, lui aussi, un caractère, un tempérament, à la fois fuyant et en même temps qui affronte, comme ce que je vous ai raconté, et puis sa guerre est pauvre pour lui. Je vous le répète, il a été compagnon de la Libération, admirateur sans borne de De Gaulle, tout en ayant quand même un certain esprit un petit peu libertaire. Hein, bon, dans le cinéma, il a fait deux ou trois films, je crois que ça n'a pas été une réussite. Ouais. Mais Émile Ajar, oui, c'est lui quand même.
Ben oui, c'est ça.
La vie devant soi. Hein. Ouais. Voilà, la vie devant soi.
Vous écrivez, on pourrait ajouter que les grands écrivains sont souvent des grands menteurs, mais que les grands menteurs ne sont pas forcément des grands écrivains.
Exactement, ben c'est ce que je vous disais, voilà. C'est-à-dire que le mentir vrai, quoi. Hein.
Le mentir vrai. Alors, Victor Hugo, on peut pas passer à côté de Victor Hugo. On ne peut être que baba devant la pathologique prolixité de ce géant déraciné au pied des reins, souvent moqué, traîné dans la fange, qui, s'il n'avait pas eu la santé mentale de fer, aurait pu finir frappadingue, comme son frère Eugène, mort à Charenton. Trop de pression, trop de dérives, bilversé, l'athlète de l'infini avait de la ressource. C'est vrai que Victor Hugo, il est aussi... je dirais pas méconnu, on a tendance un peu à oublier ce qu'il a été, c'est-à-dire c'est quand même un géant.
Oui, et puis il y a une chose qui me plaît beaucoup, moi, dans ce qu'a écrit, dans ce que dit, dans ce que pense Victor Hugo, c'est qu'on le réduit souvent à ses grands livres qui sont quand même... Bon, c'est vrai que Les Misérables, il y en a certains qui disent on pourrait en couper le quart. Oui, non, mais vous savez, vous l'entendez toujours, ça. Ces poèmes qui n'en finissent pas, Océan Onox et compagnie, bon, tout ça, mais c'est aussi quelqu'un qui a su écrire des choses ciselées, incroyables de finesse, de d'intelligence, de pertinence. Quand il dit par exemple la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Vous voyez, c'est tout simple, hein.
Ouais.
Mais c'est superbe, quoi. C'est superbe. Parce que, en plus, c'est tellement vrai. Et donc, moi, évidemment, que je pourrais vous parler un peu plus de l'œuvre de Victor Hugo, puisque j'avais fait la suite des Misérables il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc, je m'étais plongé dans une œuvre que je connaissais bien, et que je connaissais bien aussi par le cinéma, grâce au film de Raymond Bernard, avec l'immense Harry Bore dans le rôle de Jean Valjean. Mmh. Mais, bizarrement, ce qui m'a frappé le plus chez Victor Hugo, à part ce que je vous disais, ces phrases comme ça qui sont formidables, ce sont des petits livres un peu moins importants, un peu comme 93 par exemple. Mmh. Alors est-ce aussi la raison pour laquelle je m'intéressais à la Révolution française? Il y a beaucoup de romantiques qui à cette époque ont écrit des livres, que ça soit le Chevalier des Touches de Barbey d'Aurevilly, que ça soit le Chevalier de Maison Rouge d'Alexandre Dumas, et donc 93, qui était une époque qui pour moi et pour la France a été un tournant quand même décisif, puisque on est passé de la monarchie à la République. Donc et je dois avouer que ce livre 93 qui est bien dans l'esprit, j'allais dire dumasien d'une certaine façon, avec le comte de Lantenac et Gauvin qui est républicain et qui va changer pour se faire guillotiner à la place de. Enfin, c'est un très 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 beau livre, comme d'ailleurs dans un autre genre, L'Art d'être grand-père, par exemple.
Oui.
Et c'est ça qu'on devrait lire de Victor Hugo. Je dirais que ces poèmes qui n'en finissent pas peuvent être un petit peu lassants, c'est vrai. Ouais.
Alors vous dites liberté guidant le peuple, ce Hugo-là, oui, ce colosse, cet Hercule, ce monstre polymorphe, ce détestable adulé, restera gravé éternellement dans notre mémoire, tout simplement parce qu'il est notre mémoire.
Oui. Victor Hugo, de toute façon, c'est Victor Hugo pour les Français, même ceux qui l'ont mal lu ou peu lu, pour eux, c'est le père de Cosette.
Ouais, voilà.
Hein, c'est le père de la liberté guidant le peuple, bien sûr, avec qui deviendra le célèbre tableau de Delacroix. Il a su, lui, contrairement à Dumas, qui, dans l'esprit de certains, est resté un auteur un peu pour adolescents,
mm-hmm.
lui, il a su politiser, entre guillemets, sa littérature, c'est-à-dire lui donner une dimension que n'a pas toujours, celle de Dumas, il faut bien le dire. Je compare ces deux-là, parce que c'est les deux géants, quand même, de cette époque. Et lui, Victor Hugo, comme vous savez, il a fait de la politique, ça lui a pas toujours réussi, d'ailleurs, comme Chateaubriand avant, comme Dumas, un petit peu. Mais peut-être qu'il lui a manqué une chose, c'est l'action. Il prend quand même part, évidemment, contre. Il prend position de façon très dure contre Napoléon III, puisqu'il écrit ce livre, Napoléon le Petit. Il va être exilé, comme vous savez, il va être à Bruxelles, il va être dans les îles anglo-normandes, à Guernesey, je crois, c'est Guernesey, oui, je confonds toujours Guernesey et Jersey. Donc si, il y a l'action d'une certaine façon, mais il y a surtout le verbe.
Oui.
Et chez Hugo, si je devais faire ce parallèle toujours que j'aime bien faire, parce qu'ils étaient amis en plus, avec Dumas, il y a cette dimension un petit peu supérieure. En revanche, la dimension humaine, elle est du côté de Dumas, parce que Dumas, lui, quand il a des amis, il ne les critique jamais. Hugo, lui, il est toujours un petit peu jaloux du succès de ses amis. Il regarde dans l'assiette de l'autre.
Autre dernier personnage, c'est un acteur, c'est Gérard Philippe, donc que vous aimez beaucoup. Gérard est un fidèle, un cœur pur, dans son altière à solitude. Il suscite l'émotion. L'émotion, cela ne s'explique pas, c'est inné, c'est comme un coup de foudre. La fragilité de Gérard Philippe est sa force, c'est sa femme Anne qui lui offrit une conscience politique et le goût de l'avenir.
Là aussi, ça fait partie, moi, de ma jeunesse. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu, évidemment, Gérard Philippe sur scène. Je l'ai vu au cinéma. Et dans un film, dans deux films qui m'ont énormément frappé, le premier, c'est Fanfan la Tulipe, que tout le monde connaît, de Christian Jacques, et le deuxième, c'est Monsieur Ripois. Parce que là, c'est l'autre facette de Gérard Philippe, c'est-à-dire un acteur formidable qui peut jouer les cyniques de façon terrible, séducteur de dames, mais qui joue toujours les romantiques, parce qu'avec ce visage angelesque qu'il avait, et il faut dire une chose, c'est qu'il ne se destinait d'ailleurs absolument pas au théâtre ou à la comédie. C'était un garçon, il vivait à Cannes. Alors moi, évidemment, j'avais ça de commun avec lui, c'est que je suis né à Cannes. Et en plus, il avait quand même un gros handicap, c'est que son père, Monsieur Philippe, a été un sympathisant de la collaboration et notamment un membre actif du parti créé par Jacques Doriot qui s'appelait le PPF, le Parti Populaire Français. Jacques Doriot ayant été un ancien communiste qui avait été maire de Saint-Denis-la-Rouge et qui au moment de... où je crois que l'Union soviétique tend la main aux nazis et où il y a ce pacte qu'on appelle le pacte germano-soviétique, vire sa cutie et donc devient un collaborateur pur et dur, à tel point d'ailleurs que Jacques Doriot le communiste va même porter l'uniforme allemand. Donc vous imaginez un petit peu Gérard Philippe, son père, qui est cet homme-là, eh bien il lui sera toujours fidèle. Et moi, je trouve ça remarquable parce que, même si on se trompe, bon, Gérard Philippe, lui, a été un compagnon du Parti communiste, comme beaucoup étaient les comédiens à cette époque-là, eh bien, il allait voir son père qui s'était exilé en Espagne, et il l'aidait financièrement et tout ça. J'aime bien ça, les gens qui sont fidèles, quoi, même si la personne incriminée s'est trompée.
Ouais. Il y a aussi Gabin, que d'ailleurs vous dites en guise de baroud d'honneur, voilà ce que Gabin dirait s'il était encore parmi nous. Ces gens, cette modernité, ce monde qui marche sur la tête, ces bons sentiments qui n'en sont pas, c'est le bonheur rangé dans une armoire, ils nous emmerdent, gentiment, affectueusement, insidieusement, avec amour, mais ils nous emmerdent.
Ça peut... J'ai repris en fait une réplique qui était une réplique d'un film où il disait ça avec sa femme.
Et ça pourrait aussi conclure notre entretien autour de votre livre, François Cereza. Est-ce qu'il y a un personnage qui ne figure pas et qui aurait pu figurer finalement dans ce... Vous avez...
Non, mais bon, en revanche, je peux quand même mentionner des gens dont on n'a pas parlé et qui, moi, me sont chers. Puisqu'on parlait de comédiens, Gérard Philippe, Jean Gabin, c'est quand même du passé. Il y a Gérard Depardieu qui, je trouve, est un acteur hors norme, avec tous ses excès et tout ça. Mais bon, c'est Gérard Depardieu. Et puis, quatre autres, qui ont disparu, qui sont Belmondo, que j'ai connu un petit peu vers la fin de sa vie et qui était lui aussi quelqu'un de séduisant, évidemment, et qui avait, et qui se foutait de tout. Dans un film de Bertrand Blier, ça le résume d'ailleurs tout à fait, il disait « Qu'est-ce que je me suis marré ?» Mais c'est exactement ça, voilà. « Qu'est-ce que je me suis marré ?» Il s'est marré, voilà. Il a fait du cinéma, et tant mieux pour lui, ça a marché. Bon, et puis il y a les trois autres qui sont indissociables pour moi, qui sont Jean Rochefort, Jean-Pierre Mariel, et comment s'appelle-t-il, celui qui joue dans Le Vieux Fusil, là.
Philippe Noiret.
Voilà, Philippe Noiret. Excusez-moi, hein, parce qu'avec tous ces noms qu'on a dans la tête, au bout de Philippe. Et ces gens-là, je trouve, représentent tellement le cinéma français qu'on a aimé et qu'on aimerait peut-être voir encore un petit peu ressurgir avec des gens qui ont du panache, des gens qui ont du brio, des gens qui ont le courage de certaines choses, d'interpréter parfois des personnages qui sont pas toujours reluisants, mais d'être dans la vie, ce qu'il représente à l'écran. Et ça, le cinéma, c'est formidable. Quand il y a cette correspondance, on ne peut être que séduit, évidemment.
Donc d'être dans la vie fidèle à ses actes, voilà. Et à ses paroles. Merci à vous François Cereza pour le dictionnaire égoïste du panache français. Ça vient de paraître aux éditions Le Cherche Midi.
Merci chère Valère Marie. Thank you.
se payer des yachts et les pétasses qui vont avec, pour se remplir les poches de billets verts puant la mort, pour être les plus gros, pour être les plus forts. Ils ont violé sans vergogne la terre, adieu jolie rivière et bonjour les déserts. Ils ont défoncé les quatre horizons pour prendre au plus profond pétrole, gaz et charbon. Ils ont arraché à grands coups de machine les arbres et leurs racines, éventré nos collines. Pour se payer des jets et les traders qui vont avec, pour s'acheter secrète une adresse feutrée discrète, dans une île, un îlot pour planquer ses lingots. Ils ont tué la mer et les coraux, poisson le ventre en haut, plastique entre deux eaux. Ils ont su faire d'une planète exquise une triste boule grise où fondent les banquises, nous laissent avec les poulets en batterie, la bidoche pourrie et les vaches en folie. Pour se payer des Rolls et les toquantes qui vont avec, tapis rouge, courbette, portrait en une des gazettes, pour péter dans la soie en se foutant des lois. Ils ont laissé sur le bord du chemin, terrassés par la faim, 10 millions de gamins. Ils ont jeté sur des routes étrangères, chassés par la misère, des peuplades entières. Demain, c'est sûr, grossiers maîtres du jeu viendront prendre le peu qu'on a laissé au gueux. Pour se payer des yachts et les pétasses qui vont avec,